Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci aux musiciens qui nous ont conduits dans notre moment de louange au Seigneur. Merci à la chorale également. Et ce matin, donc, comme le disait le pasteur Samuel, nous allons continuer cette étude de l'Épître aux Hébreux que nous avons commencée la semaine dernière. Épître qui, comme nous le disait aussi le pasteur Samuel, est particulière à bien des égards. Nous avons vu la semaine dernière que cette épître se présente comme un sermon, comme une prédication, comme un exposé de l'auteur pour amener ses lecteurs à mieux comprendre qui est Jésus, à regarder Jésus comme le créateur de l'univers, comme l'alpha et l'oméga, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Au chapitre 1 et 2, nous avons vu que Jésus est supérieur aux anges, mais que bien qu'étant au-dessus des anges, il a pris volontairement et par amour pour nous une condition humble pour un peu de temps, en se plaçant au-dessous des anges. Qu'il s'est fait homme, qu'il a souffert la tentation afin que lorsque nous sommes tentés nous-mêmes, il puisse nous secourir. Nous avons donc vu que Jésus-Christ est glorieux, non seulement parce qu'il a créé toutes choses, mais également parce que par amour pour nous, il est descendu du ciel. Il a pris lui-même le poids de nos fautes, qu'il a subi la mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'ainsi il a rendu la mort et son pouvoir impuissantes, afin que nous n'ayons plus peur de cette mort, mais qu'au contraire, nous soyons dans l'assurance qu'un jour nous passerons l'éternité avec lui. Et ce matin, au travers des chapitres 3 et 4, nous allons, comme le dit le verset 1 du chapitre 3, continuer de porter nos pensées sur Jésus-Christ, l'apôtre de la foi que nous professons. Et nous allons voir que ce matin, il nous demande de ne pas endurcir notre cœur et de nous empresser d'entrer dans son repos. Je vais donc lire le texte. Hébreux, chapitre 3 et 4. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de la maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, notre position première, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tout ce qui était sorti sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui. En disant, bien longtemps après, par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce matin, nous allons voir trois points. Nous allons voir dans un premier point que Jésus est supérieur à Moïse. Nous allons voir ensuite que le peuple aurait dû écouter Moïse et Josué. Et nous verrons en fait, enfin, qu'en Jésus, nous avons plus que Josué. Le texte commence au chapitre 3 par une comparaison entre Moïse et Jésus. Moïse est celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. C'est celui qui a conduit le peuple lors de la traversée de la mer Rouge. C'est celui qui a vu l'Éternel dans le buisson ardent. C'est lui qui a été l'intermédiaire entre le peuple et Dieu lorsqu'il a reçu la loi. Alors aujourd'hui, lorsque nous voyons que l'auteur compare Jésus à Moïse, cela ne nous fait peut-être pas trop réagir. Mais il faut bien comprendre que pour les chrétiens hébreux à qui l'auteur s'adresse ici, comparer Jésus à Moïse était loin d'être anodin. Ici, l'auteur cite un passage du livre des Nombres, dans le chapitre 12, au verset 7. Je vous lis ce qui est écrit dans ce passage. Je vous lis Nombres, chapitre 12, versets 5 à 8. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse n'était pas n'importe qui. Il était à part. Il était celui qui est regardé le plus hautement par l'Ancien Testament et par le peuple hébreu. Il est le prophète à qui Dieu s'adressait directement, alors que tous les autres, il s'adressait à eux à travers des visions et à travers des rêves. Moïse était à part. Et Moïse et Jésus ont cela en commun, qu'ils ont été fidèles dans leur mission que le Très-Haut leur a confiée. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il dit que Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, car Moïse fait partie de la maison, alors que Jésus est le constructeur de la maison. Vous pouvez imaginer à quel point cela devait paraître choquant pour les Hébreux à l'époque de Jésus et à l'époque où ces Hébreux recevaient ce texte. Au chapitre 1, l'auteur nous disait qu'il y a non seulement une différence quantitative, mais aussi une différence qualitative dans la supériorité de Jésus sur les anges. Ici, c'est un peu la même chose. Jésus est le constructeur de sa maison, de son peuple. Il dit effectivement au verset 6, « Or, sa maison, c'est nous, c'est-à-dire nous, son peuple. » Jésus est donc digne d'une gloire supérieure à celle de son peuple, et donc à celle de Moïse, car Moïse fait partie de son peuple. Voici donc une première façon avec laquelle l'auteur nous dit que Jésus est supérieur à Moïse. Jésus, constructeur d'un côté, Moïse, construction de l'autre. Mais ici, le texte nous parle également d'une autre façon avec laquelle Jésus est digne de plus d'honneur que Moïse. C'est en fait dans le contraste quant à la fonction que chacun des deux exerce au sein de la maison. Moïse est fidèle en tant que serviteur de la maison. Jésus l'est comme fils à la tête de la maison. Le fils fait partie de la famille. C'est celui qui est propriétaire de la maison. Il a un lien plus étroit avec la maison que le simple serviteur. Voici donc une deuxième façon avec laquelle Jésus est supérieur à Moïse. Jésus, fils, d'un côté, Moïse, serviteur, de l'autre. Il est également intéressant de voir que ici, Jésus nous appelle sa maison. Sa maison, c'est-à-dire son lieu de repos. La maison de l'Éternel, lorsque le peuple était dans le désert, c'était le tabernacle dans la tente de la rencontre. C'était l'endroit où le Seigneur habitait et l'endroit également où il rencontrait son peuple. Puis 4 siècles plus tard, Salomon a construit le temple à Jérusalem, un lieu d'habitation pour l'Éternel. Un lieu que Salomon décrit lui-même comme un lieu de résidence pour l'Éternel, un endroit où il habitera éternellement. Il dit cela dans le premier livre des Rois, au chapitre 8. Mais 1000 ans après Salomon, Étienne, lorsqu'il parle à la foule avant de se faire lapider, en Actes au chapitre 7 et verset 48, dit ceci. « C'est Salomon qui a construit un temple pour l'Éternel. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Quelle maison pourrez-vous construire, pourrez-vous me construire, dit l'Éternel, dit le Seigneur. Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Voyez, ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en disant que nous sommes la maison de Jésus, c'est-à-dire nous son peuple, cette maison que le Seigneur a fait lui-même de sa propre main, il est en train de dire que nous sommes son lieu de repos. Nous sommes le repos de Jésus-Christ. Voici quelque chose qui peut paraître un peu mystérieux. Nous sommes la maison, nous sommes le repos de celui qui n'a pas besoin de se reposer. De plus, il est dit au début de la Bible, dans le 2e chapitre de la Genèse, au verset 2, il est dit que Dieu, le 7e jour, était satisfait de sa création, qu'elle était bonne, qu'il n'y avait pas de problème, et qu'ainsi il s'est reposé. Le problème, c'est que nous, nous sommes rebellés. Nous avons mis fin au repos. Nous avons mis fin à notre repos. À travers notre rébellion, le mal est entré dans le monde. Nous ne sommes pas entrés dans l'ordre créationnel que le Seigneur avait prévu pour nous. Et dans le jardin d'Éden, nous avons choisi, l'humanité a choisi, à travers Adam et Ève, de vivre indépendamment de lui. Nous avons choisi de ne pas entrer dans son repos. C'est pour cela que le Seigneur a fait un nouveau jour, aujourd'hui, afin que nous puissions encore entrer dans son repos, pourvu que nous n'endurcissions pas notre cœur, c'est-à-dire pourvu que nous lui fassions confiance. Dans la suite du texte, du verset 7 au chapitre 3 jusqu'au verset 10 au chapitre 4, l'auteur illustre, à l'aide de deux événements de l'histoire d'Israël, le fait que le peuple de Dieu avait besoin de ce repos de l'Éternel lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais qu'ils n'y sont pas entrés. C'est-à-dire qu'ils se sont rebellés, qu'ils ont choisi de ne pas faire confiance aux promesses de Dieu. La première de ces deux histoires, on la voit au verset 8 de notre texte, à travers cette citation du psaume 95. Je vous lis au verset 8. « N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ceci fait référence à une histoire célèbre dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, où les Israélites, étant sortis d'Égypte, marchaient dans le désert et étaient proches du mont Horeb, dans le désert de Sin. Alors, ils ont eu soif. Ça, ce n'était pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'ils ont murmuré contre Moïse, et ils ont murmuré contre l'Éternel. Ils disaient que ça aurait été meilleur pour eux d'être restés dans l'esclavage en Égypte. Ils ont choisi de ne pas faire confiance à l'Éternel, de le provoquer, de le mettre à l'épreuve. Ils voulaient retourner en arrière. Ils voulaient retourner dans l'esclavage. Ils voulaient revenir en Égypte. C'est dans cet épisode que l'Éternel commande à Moïse de prendre son bâton et de frapper le rocher d'où l'eau jaillit et où ainsi le peuple peut boire. C'est une étape emblématique pour le peuple de Dieu qui nous montre à nous aussi aujourd'hui notre tendance à vouloir revenir en arrière, à vouloir revenir aux choses sans consistance qui ne pourront jamais assouvir notre vraie soif et nous offrir le vrai repos pour notre âme. Cette tendance que nous avons tous à faire plus confiance dans les choses qui nous entourent que dans les choses que nous pouvons appréhender, les choses qui nous entourent, comme notre argent, notre réputation, notre beauté physique, mais aussi notre souffrance et notre malheur présent. Nous avons tendance à faire plus confiance dans ces choses-là, qui passent tellement vite, que dans les promesses immuables de Dieu. Dans cette histoire, le peuple de Dieu avait plus confiance dans sa souffrance, dans le fait qu'ils avaient soif et qu'il leur fallait de l'eau à boire maintenant, que dans la parole de l'Éternel qui leur avait promis qu'il les conduirait dans un pays où coule le lait et le miel, un endroit où ils rentreraient dans son repos. Notre tendance, c'est d'avoir plus confiance, plus de foi dans les choses que l'on voit qu'une ferme assurance dans les promesses de Dieu que l'on ne voit pas encore. Le problème, c'est que les choses visibles ne pourront jamais nous apporter le vrai repos auquel notre cœur aspire tant. Le manque de foi dans la parole de Dieu, c'est le problème fondamental de l'humanité. C'était le problème d'Adam et Ève dans le jardin, qui n'ont pas eu confiance dans ce que le Seigneur leur avait dit. C'était le problème des Israélites à Meriba, à Massa, dans cette histoire que nous venons de voir avec le rocher d'Horeb. Le peuple a murmuré contre l'Éternel. C'était le problème également dans cette deuxième histoire que l'on va voir maintenant, dans quelques instants. Et c'est notre problème à nous aussi aujourd'hui. Et ce sera le même problème pour toutes les générations qui vont nous suivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. La deuxième histoire, ici au chapitre 3 et 4, à laquelle l'auteur fait allusion, est, si je puis dire, un point culminant dans la désobéissance du peuple de Dieu. Une des histoires qui est absolument centrale dans l'Ancien Testament et qui est prise ici comme exemple, comme avertissement pour nous aujourd'hui, afin de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, afin de ne pas endurcir notre cœur, mais de faire confiance dans les promesses de Dieu, d'avoir foi en lui. Cette deuxième histoire relate le moment où les Israélites se retrouvent à la frontière entre le désert et la terre promise. On voit cette histoire dans les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. L'Éternel demande à Moïse d'envoyer 12 explorateurs pour explorer le pays promis, un pour chaque tribu. Alors, les 12 explorateurs partent dans le pays et 40 jours après, ils reviennent de leur exploration pour faire leur rapport. Et la première chose qu'ils disent au peuple, c'est la bonne nouvelle que le peuple attendait. Ils disent, en gros, l'Éternel est digne de confiance. Il ne nous a pas menti, car ce pays est véritablement un pays où coule le lait et le miel. C'est d'ailleurs principalement pour cette raison que l'Éternel les avait envoyés, pour que le peuple puisse constater qu'il est digne de confiance et pour qu'il soit prêt à entrer dans la terre promise, avoir foi en lui et se saisir de son repos promis. Encore une fois, tout ce que le Seigneur demande à son peuple, à travers toutes les histoires de la Bible, c'est de lui faire confiance. De faire ce qu'il nous demande, de lui obéir. Et ces choses qu'il nous demande ne sont jamais au-delà de nos capacités ou de nos forces. Car lorsque nous faisons sa volonté, il est avec nous. Ces choses peuvent nous paraître au-delà de nos forces. Mais s'il est avec nous, qu'est-ce qui peut être au-delà de ses forces à lui? Ce n'est pas par nos œuvres, et ça ne l'a jamais été. Mais c'est par notre foi dans ses œuvres à lui que nous pouvons nous saisir de ses promesses certaines et que l'on entre dans son repos. Le problème, c'est que nous avons toujours un « oui, mais ». Et dans cette deuxième histoire du peuple d'Israël, les explorateurs et le peuple ont probablement un des « oui, mais » les plus terribles de leur histoire. Ils disent « oui, mais les gens qui habitent ce pays sont forts. Ce sont des gens de grande taille, des sortes de géants. Comment pourrons-nous conquérir ce pays? C'est au-delà de nos forces. » Il y a bien, cependant, deux des explorateurs, Josué et Caleb, qui font confiance à l'Éternel, qui ont compris que si l'Éternel est avec eux, ça ira. Alors ils essaient de convaincre le peuple d'entrer dans le pays. Ils leur disent, chose qui nous paraît à nous évidente aujourd'hui de notre point de vue, ils leur disent, en gros, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Évidemment, ils ont raison. Mais le « oui, mais » du peuple est plus fort. Leur confiance dans leur sécurité passagère, leur confiance dans leur confort, qui est cependant tout à fait relatif, car ils sont quand même dans le désert. Et la peur de ce qui pourrait leur arriver est plus forte que leur confiance dans les promesses éternelles de Dieu. Alors, ils veulent lapider Josué et Caleb. L'Éternel intervient et il dit à Moïse, « Mais jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi ?» Il dit, « Jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» L'Éternel les a fait sortir d'Égypte. Il les a conduits à travers la mer. Le peuple l'a vu pourvoir pour eux, pour leurs besoins dans le désert, à maintes et maintes reprises, avec la manne, l'écaille, l'eau du rocher d'Horeb, et enfin la bonne nouvelle que Josué et Caleb leur ont annoncée, c'est-à-dire la certitude que l'Éternel avait dit vrai et que ce pays est vraiment un pays où coule le lait et le miel, qui peuvent lui faire confiance. Seulement voilà, comme le dit le texte dans l'Épître aux Hébreux ici, ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui avaient écouté, c'est-à-dire Moïse, Josué et Caleb, on pourrait dire les apôtres de leur foi, c'est-à-dire les messagers, les ambassadeurs, les médiateurs entre Dieu et le peuple. Ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle qui leur était annoncée. Et ils n'ont pas pu entrer dans le repos du Seigneur. Vendredi, il y a 10 jours de cela, nous avons eu une journée de formation ici à l'église. Et à la fin de la journée, le formateur, le pasteur Thomas Koenig, nous a raconté une histoire. Il nous disait qu'un jour, une petite fille de 6 ans a demandé à un pasteur « Pourquoi Jésus-Christ n'est-il pas venu sur terre pour mourir à la croix ?» dans Genèse chapitre 4. Alors son argument à la petite, c'était « Genèse 1 et 2, Dieu crée l'univers, tout ce qui s'y trouve, l'homme, tout est bon. Genèse 3, c'est la désobéissance de l'homme, la perte du repos, la chute et la séparation d'avec Dieu. Et Genèse 4 aurait pu être « Jésus vient, il meurt pour nous à la croix, prend la conséquence de notre désobéissance, restaure toute chose et la Bible aurait pu être bien plus courte. » Et le pasteur lui a répondu que Jésus est tellement merveilleux, tellement précieux, tellement incroyable que son peuple avait besoin de se préparer à sa venue afin de l'accueillir avec foi. Ces deux événements de l'Ancien Testament, Dieu les a fait écrire dans sa Bible pour ces Hébreux à qui l'auteur s'adresse et pour nous aussi aujourd'hui, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que eux ont fait dans le désert, mais pour que nous ayons pleinement confiance dans les promesses de l'Éternel et que nous nous empressions d'entrer dans son repos par la foi. J'ai dit un peu plus tôt que le « oui, mais » dans le désert était un des plus terribles de l'histoire. Mais ce n'était pas le plus terrible. Parce que le plus terrible « oui, mais » de l'histoire, eh bien, c'est le nôtre. Celui que nous disons à Jésus quand nous choisissons de ne pas lui faire confiance. Parce que vous voyez, nous avons beaucoup plus en Jésus-Christ que ce que le peuple avait en Josué. La bonne nouvelle que Josué a annoncée aux Israélites dans le désert n'était que l'ombre annonciatrice de la vraie bonne nouvelle qui devait venir un jour et que le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre de notre foi à nous, nous offre aujourd'hui, gratuitement et chaque jour que l'on pourra dire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est la promesse qu'en lui, dans sa présence, dans une relation avec lui et dans sa maison, c'est-à-dire au sein de son peuple, tous unis dans la foi et nous encourageant les uns les autres, nous pouvons entrer dans son repos. Ce repos que nous offre Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un pays où coule le lait et le miel, mais c'est la paix et la joie pour notre âme, pour toujours. Ce repos est infiniment plus grand, plus glorieux et plus précieux que celui qu'offrait Josué aux Israélites. Mais des conséquences de rejeter par notre incrédulité cette bonne nouvelle que nous offre gratuitement Jésus-Christ sont également infiniment plus terribles qu'une quarantaine d'années passées dans le désert. Rejeter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est choisir d'être errant pour l'éternité, sans réconfort, sans aucun repos pour notre âme. Voilà pourquoi notre « oui, mais » est bien plus terrible et lourd de conséquences que celui des Israélites dans le désert. Nous avons plus en Jésus-Christ que les Israélites avaient en Josué. Dans le désert, également, Josué se contentait d'annoncer la bonne nouvelle, le repos, comme serviteur de la maison, serviteur du peuple de Dieu. Le Christ est non seulement venu annoncer le repos, mais il en est également l'auteur. Il est le constructeur de la maison Et bien plus encore, il est à la tête de la maison et le reste de la maison, c'est-à-dire nous, nous pouvons avoir confiance au chef de la maison et nous reposer sur sa bonne direction. Jésus-Christ est l'annonciateur, il est l'auteur et il est l'objet de notre repos. Entrer dans son repos veut dire entrer dans sa maison et faire confiance à celui qui est à la tête, qui n'est pas un simple administrateur de la maison, mais qui est fils de la maison, c'est-à-dire qu'il aime sa maison. Lui faire confiance veut dire obéir à sa parole, sans la remettre en question. C'est marcher dans sa volonté, marcher sur ses traces. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Et ce repos ne dépend pas des circonstances extérieures à nous-mêmes. C'est un choix. Il dépend uniquement de la foi que nous choisissons d'avoir en lui aujourd'hui. Peut-être nous allons être persécutés, peut-être nous allons être insultés, peut-être nous allons être pauvres, peut-être nous allons être, comme je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous, immigrants dans un pays étranger, loin de notre famille. Mais ne nous laissons pas intimider par ces choses-là, comme les Israélites dans le désert l'ont fait. Ce texte, ici, ce matin, nous dit que peu importe quels sont les géants qui nous menacent, nous serons dans le repos, car nous serons aux côtés de Jésus-Christ, dans sa maison. Et il nous gardera. Et nous avons l'assurance qu'un jour, à la fin des temps, ce qui nous fait peur aujourd'hui et qui peut parfois nous empêcher de rentrer dans son repos, c'est-à-dire les larmes, la mort, les cris, la douleur, toutes ces choses qui existent maintenant auront alors disparu, pour de bon. Le Seigneur nous dit que nous sommes sa maison, qu'il a construite lui-même. Et cette maison, il ne l'a pas construite avec des planches comme Salomon. Il l'a construite en restant fidèle à sa mission qu'il est venu accomplir il y a 2000 ans lorsqu'il est venu sur terre. Sa maison, il l'a construite au prix de son sang, au prix de sa vie, par amour pour nous, afin que nous, qui n'étions ni des fils, ni des filles, ni des héritiers de la maison, nous puissions devenir, par adoption, des membres de la famille de Dieu et ainsi devenir participants à sa gloire. Il a abandonné sa gloire pour un peu de temps, afin que nous puissions la partager avec lui. Pour un peu de temps, il a abandonné son repos auprès du Père, afin que nous puissions devenir son repos. Pour un peu de temps, il a abandonné sa joie auprès du Père, afin que nous puissions devenir sa joie. Et pour un peu de temps, il a abandonné sa maison auprès du Père, afin de faire de nous sa maison, son temple. Et Jésus-Christ a fait sa maison pour son peuple, il l'a fait pour nous, pour lui, afin de demeurer en nous et afin que par la foi, nous puissions aussi demeurer en lui. Tout comme le mari se repose dans les bras de sa femme et la femme dans ceux de son mari, nous pouvons nous aussi nous reposer dans les bras de Jésus-Christ et avoir la certitude qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonnera jamais et que nous pouvons lui faire confiance. Vous voyez, les Israélites dans le désert avaient toutes les bonnes raisons du monde de faire confiance à l'Éternel, à sa fidélité, à son amour. Ils avaient toutes les bonnes raisons du monde de faire confiance à la bonne nouvelle que leur annonçait Josué, le serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des raisons encore meilleures de faire confiance non pas au serviteur de l'Éternel, mais au Fils de Dieu, qui par amour s'est sacrifié pour nous. Alors aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur et empressons-nous de lui faire confiance, de demeurer dans sa maison et d'entrer dans son repos. Prions. Notre Père, notre Dieu, ta parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses nous laisser être transpercés par cette parole. Que tu puisses nous donner de voir à quel point tu nous as aimés. De voir à quel point tu as aimé ta maison, au point que tu as eu affaire avec le mal, avec la mort, que tu les as vaincus pour nous. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner cette histoire, ces histoires dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était dans le désert, comme un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Seigneur, permets-nous, par ta grâce, d'avoir la foi en toi, de te faire confiance et de marcher sur tes traces chaque jour que l'on pourra dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.